Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
2 mois de conflit en Iran et ça a forcé l'émergence de routes alternatives au détroit d'Ormuz, la réorganisation plus globale du transport et de la logistique dans l'ensemble des pays du Golfe. De nouvelles routes, de nouveaux moyens de faire sortir les marchandises, c'est votre spécialité. Salomé Hurel, bonjour, vous êtes enseignante chercheuse en management de la chaîne logistique à l'EMLV Business School. Le premier point, c'est qu'on voit quand même une certaine résilience des chaînes. Ça ne part pas vers la mer, on s'organise autrement, quoi.
Oui, alors ça part quand même par la mer parce qu'on peut pas tout faire passer en terrestre. Mais alors, heureusement qu'on voit de la résilience parce que quand même, les crises se succèdent les unes après les autres. On a quand même des chaînes logistiques qui apprennent des crises précédentes. Mais néanmoins, c'est pas parfait. On voit bien que tous les jours, on parle du détroit d'Ormuz, que l'on s'inquiète sur des éventuelles pénuries. Donc, ça veut dire que ça se réorganise, mais pas entièrement.
Mais quand même, sur les routes, on voit des endroits dans certains déserts dans le Golfe qui, tout d'un coup, ont une activité qu'on n'avait jamais vue, là.
Alors, oui, et puis des ports également. Qui ont une activité qu'on n'avait jamais vue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut arriver à s'échapper finalement de ce détroit d'Ormuz et trouver d'autres accès vers la mer, parce qu'on a des produits que l'on peut transporter uniquement en maritime. Et donc, ça veut dire que il va falloir acheminer certains produits vers Oman pour pouvoir faire sortir les matières par le golfe d'Oman, ou alors retour vers la mer Rouge, j'ai envie de dire. Une mer Rouge qui était évitée par les transporteurs parce qu'on a connu exactement les attaques d'outils. Et d'un coup, la mer Rouge devient de nouveau à la mode. Ce que l'on voit, c'est du multimodal qui se met en place quand c'est possible pour certains produits et c'est pas possible pour le pétrole. Mmh. Mais pour certains produits, on va avoir une route terrestre de l'Est vers l'Ouest de l'Arabie Saoudite qui va déboucher notamment sur la mer Rouge pour pouvoir ensuite partir vers le canal de Suez ou alors vers le Sud pour passer par l'Afrique.
Analyse.
Justement, il y a des ports qui avaient une importance toute relative jusqu'à il y a 2 mois et qui aujourd'hui sont envahis par des flux de camions. On parle beaucoup de Fujairah par exemple. Oui. Est-ce qu'ils ont les capacités de le faire? Comment ils s'adaptent?
Alors non, ils n'ont pas vraiment la capacité de le faire et aujourd'hui ce qu'ils connaissent ces ports-là, c'est la congestion. Donc se dire, c'est bon, on a trouvé d'autres ports, les chaînes logistiques vont se remettre en place, les délais vont être sauvegardés, ça c'est absolument illusoire. Ce que l'on voit autour de ces ports, c'est de la congestion et une très grande difficulté à absorber ces flux. Donc voilà, toute leur capacité n'était pas utilisée avant la crise, donc là ils sont à bloc, j'ai envie de dire, mais clairement ils ne peuvent pas absorber l'ensemble des capacités qui ne passent plus aujourd'hui par le détroit d'Ormuz.
Avec une forte augmentation des coûts, parce que ça coûte quand même assez cher de transiter par camion.
Alors oui, et même au-delà de ça, donc il y a transiter par camion, mais pour ce qui reste du maritime, rien que les coûts sur le maritime ont absolument explosé. Je suis allée chercher quelques chiffres. Par exemple, si on prend un super tanker sur la route Moyen-Orient-Chine, avant la crise en Iran, c'était aux alentours de $170,000 par jour. Aujourd'hui, on est à $400,000 par jour, donc ça a plus que doublé. D'autres coûts, par exemple, sur les primes de guerre, donc vous savez qu'il y a des assurances, les primes de guerre, alors elles se chiffrent par transit. On était sur 0,2-0,25% la valeur du navire avant, et bien là, on a multiplié par 5. Donc, j'ai envie de dire, tous les coûts, par ailleurs, sont en train d'augmenter, des coûts liés au stockage. Je viens de dire qu'il y a de la congestion, donc ça veut dire qu'il y a de l'attente. Il faut stocker, ces coûts augmentent. Les primes, elles augmentent. Le tarif du conteneur augmente. Le fret en méthanier ou que ce soit en supertanker augmente. Bref, gros choc sur les coûts.
Analyse.
Qu'est-ce qu'on a appris de cette crise? Qu'est-ce qu'on apprend encore? Est-ce qu'on sera mieux préparé pour gérer la prochaine?
Alors, il faut l'espérer, puisque quand même, à chaque crise, il y a une amélioration par rapport à la crise précédente. Mais néanmoins, l'apprentissage, j'ai envie de dire, c'est quand même le volet de la résilience qui, aujourd'hui, pêche toujours le plus. C'est-à-dire, les chaînes logistiques sont devenues pas trop mauvaises en adaptation. Vous voyez bien, ça réagit en cas de crise. Tout de suite, on cherche des plans B. Ces plans B, ils sont possibles parce que en amont, elles ont amélioré leur agilité structurelle. C'est-à-dire, elles ont déjà réfléchi à ce what if. S'il se passe quelque chose, alors qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Est-ce que l'on a déjà réfléchi à ces plans B? Mais la question reste toujours celle de l'apprentissage a posteriori. En fait, les chaînes logistiques sont tellement sous tension que ce temps de l'apprentissage, les entreprises, elles le trouvent plus. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que j'apprends de ce qui s'est passé pour pouvoir s'assurer que demain, on sera pas de nouveau dans cette difficulté-là? Et ben, ce temps-là, il est tellement contraint que ceci n'est pas bien fait. Or, si on parle de résilience des chaînes logistiques, certes c'est de l'adaptation, certes c'est de l'agilité, mais c'est aussi l'apprentissage. Donc on peut qu'encourager les entreprises quand même à faire cet effort du retour d'expérience.
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse toujours à des plans B, plans C, plans
I. Oui, c'est-à-dire que quand on travaille en logistique, alors on voit tout à fait le côté très opérationnel des choses.
Hein, mais il y a des gens qui pensent à des
bouger
plans.
Bouger des flux, mais il y a aussi des gens dont le travail est d'avoir une vision stratégique,
juste
réfléchir à des plans.
Un mot sur le train, parce qu'on avait vu ça avec l'Ukraine qui arrivait à sortir du blé par le train et à se réorganiser. Là, dans les pays du Golfe,
alors c'est pas aussi
ferré,
c'est pas aussi développé malheureusement. Donc effectivement, c'est le rail, c'est pas l'option qui est aujourd'hui privilégiée. Plutôt des options pour le terrestre, quand c'est possible, pour certaines matières qui peuvent être transportées en conteneur. Donc là, on a du multimodal. Mais sinon, pour le reste, on est toujours sur une obligation maritime. C'est le cas sur le GNL, par exemple.